Vous êtes sur RTL.
Est-ce que 10 heures ? Les infos avec Yann Boucherie. Bonjour Yann.
Bonjour Michel, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition. À la une, un dimanche de prière. Les offices religieux sont à nouveau autorisés. Les églises accueillent des fidèles depuis hier, mais pas les mosquées, alors que les musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aïd, c'est-à-dire la fin du Ramadan. Nous ferons le point dès le début du journal. Dans l'actualité également, l'installation des nouveaux maires et le cumul de fonctions pour celui de Tourcoing. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a obtenu l'autorisation de l'Élysée et de Matignon. À suivre aussi les gagnants et les perdants du déconfinement. La règle des 100 km n'offre pas les mêmes possibilités d'escapade selon votre lieu de résidence. À l'étranger, des heurts à Hong Kong lors d'une manifestation pro-démocratie. La police anti-émeute a tiré des grenades lacrymogènes sur la foule. Et puis en sport, les cyclistes professionnels reprennent l'entraînement dans des conditions assez particulières. Nous avons suivi l'un d'entre eux. La météo avec vous, Anthony Kaczmarek, bonjour.
Bonjour.
Soleil éclatant sur le pays.
Exactement, avec à peine quelques cumulus de beau temps pour décorer votre ciel entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est et la Bourgogne. Un voile de nuages au sud de la Garonne et peut-être une averse orageuse sur les Pyrénées, avec aussi du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Les températures retrouvent des valeurs de saison, avec 17 degrés pour Le Havre dans l'après-midi, 19 à Cherbourg, 20 degrés pour Lille et pour Brest, 21 à Strasbourg et La Rochelle, 22 à Paris, 23 à Bordeaux et Toulouse, 27 quand même pour Marseille et 28 pour Montpellier.
Merci Anthony.
RTL, le 10h, avec Yann Boucherie.
Plus besoin de célébrer la messe sous forme de drive-in, comme la semaine dernière à Châlons-en-Champagne. Depuis, l'injonction du Conseil d'État a été mise en forme par le gouvernement et la tenue des cérémonies religieuses autorisées par décret vendredi soir. De nombreux offices sont donc programmés en ce week-end de l'Ascension pour les catholiques. C'est le cas à Marseille, où la Bonne Mère accueille à nouveau ses fidèles ce matin. Hugo Hamelin, bonjour, vous êtes sur place pour RTL à Notre-Dame-de-la-Garde. Une communauté, on imagine, heureuse de se rassembler.
Allez, bonjour à tous, un temps magnifique ici à Marseille pour cette réouverture de la Bonne Mère, pour cette première messe à Notre-Dame-de-la-Garde.
C'est de l'eau bénite ça, monsieur.
Mon père, un petit mot sur votre émotion, j'imagine, à l'heure de réouvrir Notre-Dame-de-la-Garde.
Alors, il y a de l'émotion, il y a de la joie, il y a de la joie spirituelle de pouvoir célébrer à nouveau avec une assemblée. Parce qu'en fait, l'église, le mot église veut dire assemblée. Bienvenue pour cette première messe.
Donc 60 personnes maximum, vous l'avez compris, avec des emplaissements réservés. On entend les cloches qui sonnent dans tout Marseille. La basilique est toujours aussi magnifique. Et on pénètre dans la Bonne Mère. Bonjour madame.
Bonjour.
Je peux vous poser une petite question, votre émotion pour ce retour en messe commune?
Je suis ravie, ça manquait, même si on regardait à la télé. La communion, c'est important pour nous et on avait besoin d'être là, sur les lieux, pour communier.
Vous retrouvez une église magnifique, mais dans des conditions particulières.
Oui, on est espacé, on est trois par banc. On se met le gel hydroalcoolique, tout est bien respecté. En tout cas, on est en sécurité.
Frères et sœurs, quelle joie de pouvoir enfin nous réunir. Et derrière vos masques, je devine vos sourires.
Donc voilà, la première messe va démarrer. Il y en aura 6 dans la journée ici à Notre-Dame-de-la-Garde.
Merci Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Ce dimanche est aussi un jour de fête pour des millions de musulmans qui célèbrent l'Aïd el-Fitr. Une date synonyme de fin du Ramadan, durant lequel les fidèles ont jeûné du lever au coucher du soleil. Une célébration inhabituelle en raison de l'épidémie de coronavirus. Malgré le nouveau décret du gouvernement, les mosquées n'ouvriront pas leurs portes aujourd'hui à la demande du Conseil français du culte musulman, car les mesures sanitaires n'ont pas encore été prises. Un regret pour Kamel Kaptan, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon.
C'est vrai que pour nous, ça nous pose d'énormes problèmes. Nous n'étions pas préparés puisque nous attendions la fin de l'Aïd pour nous réunir et pour réunir l'ensemble des mosquées, pour pouvoir décider ensemble et savoir quelles sont les mesures qu'on doit mettre en vigueur pour que les choses se passent le mieux possible. Il va nous falloir diviser le nombre de fidèles par 4. Comment ça va s'organiser? Qui on va accepter? Est-ce que les personnes âgées, les personnes à risque? D'habitude, ici, la mosquée de Lyon, c'est 10 000 personnes à peu près pour l'Aïd. Nous allons fêter ça, mais de la façon la plus simple possible. Je suis déçu que la considération pour chacune des religions ne s'est pas faite de façon assez forte.
Kamel Kaptan, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, au micro RTL de Nerissa Emani. RTL, 10h04. À la fois maire et ministre, c'est l'avenir de Gérald Darmanin, au moins à court terme. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a été élu hier dans le fauteuil de premier magistrat de Tourcoing, poste qu'il a occupé de 2014 à 2017. Un cumul de fonctions pourtant proscrit par Édouard Philippe le 4 septembre dernier.
Chaque ministre pourra être candidat. Je précise immédiatement que la règle selon laquelle on ne peut pas cumuler sa fonction de ministre avec la tête d'un exécutif local restera valable, ce qui veut dire qu'il appartiendra à ceux qui sont candidats, le moment venu, de déterminer si oui ou non ils veulent rester membres du gouvernement ou si oui ou non ils choisissent d'exercer des fonctions à la tête de l'exécutif auquel ils auraient été élus.
Alors ça, c'était au mois de septembre. Cela n'a pas empêché Gérald Darmanin de revêtir hier l'écharpe de maire de Tourcoing avec l'assentiment, dit-il, des deux têtes de l'exécutif. Benjamin Sportouche, bonjour.
Bonjour Yann, bonjour à tous.
Vous lui poserez directement la question puisque ça tombe bien. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics sera l'invité du grand jury RTL de Figaro LCI à partir de midi.
Oui, Gérald Darmanin qui a obtenu une exception pour un temps, comme il le dit lui-même, hein, sans cumuler les rémunérations puisqu'il versera son traitement de maire à la SPA. Pour ceux qui en doutaient encore, le ministre, c'est vrai, faire de la politique. En fait, il a obtenu une dérogation d'ici le remaniement gouvernemental qui est maintenant acquis, hein, restant à connaître le moment. Est-ce que ce sera juste après les municipales ou à la rentrée? Ce n'est pas encore tranché. Et qui dit remaniement dit peut-être changement de Premier ministre. Du coup, on se demande si Gérald Darmanin ne lorgne pas la place. Ça a tout l'air, en tout cas. Dans son interview au journal du dimanche ce matin, il avance clairement ses pions et ses idées. Il le confirmera certainement au grand jury, et notamment sur la participation, une vieille idée gaullienne pour associer davantage des salariés aux bénéfices de l'entreprise. Il se positionne en ministre du peuple, mais en même temps, ministre du budget. Eh bien, il a aussi fermé les cordons de la bourse l'an dernier, alors que l'hôpital criait famine. Gérald Darmanin le regrette-t-il? Est-il prêt aujourd'hui à ouvrir les vannes, quoi qu'il en coûte? Comme l'a dit le président, on lui posera la question. Lui qui révèle aussi avoir voté chevènement en 2002. Et figurez-vous que, selon mes informations, Emmanuel Macron cherche justement un chevènement moderne. Voilà l'expression qu'on utilise à l'Élysée. Alors, est-ce un hasard ou une coïncidence, hein, cette référence à Jean-Pierre Chevènement? Eh bien, je vous donne rendez-vous avec Gérald Darmanin pour le savoir, ministre de l'Action des Comptes Publics et peut-être, qui sait, futur Premier ministre. À tout à l'heure, midi, pour le savoir.
On sera là. Merci, Benjamin Sportouche. À l'étranger, à nouveau des affrontements ce matin dans le centre de Hong Kong. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre le projet de loi sécuritaire téléguidé par la Chine. La police anti-émeute est entrée en action, Philippe Dova.
Oui, derrière une banderole indiquant « Le ciel détruira », le parti communiste chinois, arborant des drapeaux américains et au cri de « Libérer Hong Kong », plusieurs milliers de manifestants vêtus de noir se sont rassemblés dans le quartier le plus commerçant de la ville pour dénoncer le projet de loi de sécurité nationale annoncé par Pékin vendredi dernier. Une loi taillée sur mesure pour Hong Kong qui, pour le camp pro-démocratie, sonnerait le glas des libertés individuelles et du régime de semi-autonomie dont jouit l'ancienne colonie britannique depuis 1997. Les forces anti-émeutes très nombreuses ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants et arrêter l'un des organisateurs accusé de ne pas avoir respecté les règles liées au Covid-19, interdisant tout rassemblement de plus de 8 personnes.
Philippe Dova, à Hong Kong pour RTL. La nouvelle loi doit s'appliquer immédiatement, selon le ministre chinois des Affaires étrangères. L'ancienne colonie britannique, source de friction entre Pékin et Washington. Les deux pays sont au bord d'une nouvelle guerre froide, déclare aussi le diplomate chinois qui déplore les regains de tensions liés à l'épidémie de coronavirus. RTL 10h08, une pause dans ce journal avant de savoir si vous faites partie des gagnants ou des perdants avec la règle des 100 km. À tout de suite.
Économisons-la.
RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
10h09, vous profitez peut-être du week-end pour prendre un grand bol d'air, mais toujours dans la limite des 100 km autour de votre domicile. Sauf bien sûr si vous restez dans votre département. Et à ce titre, eh bien, les Français ne sont pas logés tous à la même enseigne. Le littoral ou une frontière sont un handicap. Un géographe montpelliérain a donc créé une carte qui cumule plusieurs facteurs. Et à l'arrivée, il peut déterminer les 10 communes métropolitaines les mieux situées, Yannick Holland.
Eh bien, les plus chanceux de France sont les 160 habitants de Vendières, un petit village tout au sud du département de l'Aisne, à la frontière avec la Seine-et-Marne. Mathieu Ambrosi, du site Géonov.
Tout le nord du département sort du cercle de 100 km, ce qui fait qu'il se retrouve avec une surface plus grande due à la forme du département très allongé nord-sud. Les habitants de Vendières peuvent aller à Paris, à l'ouest. À l'est, ils peuvent dépasser Châlons en Champagne. Mais comme ils ont accès également au nord de leur département, ils peuvent aller jusqu'à Saint-Quentin, au-delà des 100 km.
Et les habitants de Vendières qui peuvent ainsi aller jusqu'à la frontière belge à 160 km de chez eux. A l'inverse, les moins chanceux, ce ne sont pas des Bretons, comme on pourrait s'y attendre, mais des Alsaciens, les habitants de Lauterbourg. Quand vous regardez une carte de France, hein, c'est la pointe nord-est du pays. Avec la fermeture des frontières, ils perdent les trois quarts de leur déplacement potentiel, record de France.
Ces habitants n'ont accès que à leur département vers l'ouest, et donc se retrouvent avec une zone beaucoup plus petite. ça fait à peine un quart de cercle, donc c'est-à-dire qu'ils ont accès à même pas 25% d'un cercle de 100 km.
Et juste après Lauterbourg, c'est la ville de La Hague, dans la Manche, qui occupe la deuxième place sur le podium des plus malchanceux de France à ce grand jeu du déconfinement.
Reportage signé Yannick Collant pour RTL. À La Hague, il y a quand même la mer, ce qui n'est pas désagréable. Pour savoir dans quel camp vous êtes, vous pouvez vous rendre sur le site geonov.fr. Les sports à présent et la liberté retrouvée des cyclistes professionnels. Avec le déconfinement, ils ont pu reprendre l'entraînement, mais avec 10 mètres entre deux coureurs. Illustration avec William Bonnet de l'équipe Groupama FDJ. Il a zéro jour de course au compteur et il faut maintenant retrouver la forme en vue de l'été. Nicolas Georgerot a pris sa roue.
William Bonnet a retrouvé la route, la sortie du jour.
Environ 3h30, 4h, voilà, ça dépendra aussi comment je me sens. Je pourrais raccourcir si ça va pas, et voilà, si ça va bien, bah, on rallongera un petit peu.
Avec sa femme et ses trois enfants, le coureur Groupama FDJ vit dans l'Oise, à quelques kilomètres du premier foyer épidémique.
J'ai traversé pas mal de villes qui étaient citées comme clusters à l'entraînement. Hein. La population ne se rendait pas trop compte de ce qui arrivait.
Le quotidien, pendant 2 mois, c'était cet endroit.
Voici le garage. Bon, tu vois, il y a du vélo.
À l'arrêt, sur home trainer, sa grave chute en 2015, cervicale fracturée, 5 mois sans activité, l'a aidé dans la période actuelle.
Il fallait pas se prendre la tête par rapport à se dire qu'on allait être mauvais au retour. Sinon, tu déprimes, c'est justement ça qui aurait pas été bon.
Le retour dans les pelotons.
Je dis pas qu'on ne craint rien, mais faut pas non plus voir le noir partout. Quoi.
Les 10 mètres à respecter pour l'instant entre deux coureurs, pas toujours évident.
J'ai rattrapé une personne que je connaissais, bah, je suis resté un petit peu discuter avec lui. On était côte à côte, même si on restait à 1 mètre l'un de l'autre. Après, je pense côte à côte, il y a moins de problèmes que d'être l'un derrière l'autre.
William Bonnet connaîtra son programme de course début juin. Il ne sait pas encore s'il accompagnera son leader Thibaut Pinot sur le Tour de France.
Reportage signé Nicolas Georgerot pour RTL. En football, la Liga espagnole rechausse les crampons à partir du 8 juin pour finir la saison en cours. Une reprise qui fait bondir Jean-Michel Aulas alors que la saison a été définitivement arrêtée en France. On est vraiment trop cons, se plaint le président lyonnais ce matin dans le journal L'Équipe. En France, la Ligue 1 recommencera le 23 août. En tennis, ce dimanche aurait dû être celui du début de Roland-Garros qui a été décalé à septembre. Lucas Pouille viendra en parler ce soir dans On refait le sport en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. 19h30, 20h. Éric Silvestro aura également comme invité, s'il vous plaît, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. On termine avec les courses. Elles ont lieu cet après-midi à Deauville. Les pronostics de Bernard Decroix, le 9, l'As, le 6, le 2, le 13, le 8, le 10, le 11 et la dernière minute, le numéro 6. RTL 10h et 13 minutes. Quel bonheur de vous retrouver, mon cher Vincent Perrault, avec un programme musical de choix, comme
d'habitude.
C'est
un plaisir partagé, Yann. Je vous remercie. Et du coup, vous savez que la porte du studio ici sera ouverte pour vous tout à l'heure à 11h pour le prochain journal.
Avec plaisir.
Ça marche.